Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere, non si.
Aligre FM présente Cappuccino.
Alors, Michel a beau dire qu'aujourd'hui il va faire beau, malheureusement,
On a un beau soleil dans le studio.
Oui, dans le studio, oui.
On va aller au soleil en plus, dans le sud, en Sicile, en Tunisie.
C'est très bien, mais là où il est Michel, en Bretagne, je te mettrais très fort qu'il fasse très très beau.
C'est bon.
En tout cas, nous te confions sa place, Alain.
Voilà, mais on va...
N'allège pas que tu puisses nous amener un peu de soleil aussi, toi.
Voilà, comme je te dis, mes invités, on va aller dans le sud. On va aller dans le sud, donc a priori au soleil. Alors justement, nos invités, on va commencer par Hossein Tanjaoui, qui a écrit un roman qui se passe entre Naples et la Tunisie, puisque le thème aujourd'hui, c'est les Siciliens, les Italiens en général, mais beaucoup de Siciliens ont émigré en Tunisie, et puis parfois ont dû revenir, la plus célèbre étant Claudia Cardinale, et bien sûr, voilà. Et donc, on va commencer par une chanson en musique avec un titre qui s'appelle Vene Carnaval d'un groupe du Sud qui s'appelle Taverna Nova. On va commencer par une info de cinéma. Le film italien qu'il faut voir en ce moment, c'est Gloria, Gloria de Margherita Vicario. Gloria, on est au début de 1800. Le pape Pie VII vient d'être élu et donc l'histoire se passe dans un couvent dans le Veneto, d'un couvent de jeunes orphelines, et là on leur apprend la musique. C'était la tradition à l'époque, les jeunes orphelines, on les mettait dans des couvents pour y apprendre la musique. Et donc il est, le directeur de ce couvent doit écrire un hymne, une sorte de gloria pour accueillir le pape. Et donc c'est un film à la fois musical, mais un petit peu déjanté au niveau musical. Il y a des énigmes, des intrigues, il y a un suspense jusqu'à la fin. Donc vraiment, il y a une musique magnifique, à la fois du 18e. Il y a de très beaux lieux, très bien éclairés. Les acteurs et actrices sont vraiment tous inconnus, mais tous formidables. Donc il faut voir ce film de Margherita Vicario, qui est distribué dans beaucoup de films en France, c'est rare. Et donc cette Margherita Vicario est fille d'un réalisateur Vicario, et son grand-père Vicario était marié avec Rossana Podestà, donc elle est figlia d'arte, comme si dice. Et Rossana Podestà, qui était née à Tripoli, en Libye, justement, en 1930. Donc, qui va nous ramener un petit peu de la Méditerranée, où on va aller bientôt. On va passer en deuxième morceau. Comme on va parler d'immigration, c'est Giuliano Gabriele qui nous chante le chant des immigrants. Thank you. Voilà, donc c'était Giuliano Gabriele qu'on a pu applaudir à Paris il y a quelque temps, il y a deux mois je pense. On va en venir au théâtre pour vous rappeler que vous pouvez toujours voir Sfumato, la Joconde dévoilée de Vanessa Brigitte. Ça c'est au théâtre La Folie Théâtre et c'est avec Eric Moscardo, Antoine Gerbrandt, Giacomo La Rosali italien et François Podetti. Donc on est dans l'atelier de Léonard de Vinci et arrive Monsieur Giocondo qui vient présenter sa femme pour faire son portrait. Donc c'est très drôle, c'est très bien fait, les costumes. Il est question aussi de la bataille d'Anghiari, la rivalité entre Leonardo da Vinci et Michelangelo, les deux peignant des fresques dans une chapelle. Et puis il y a aussi les deux aides de Leonardo qui sont Salai et Melsi. Donc ça se joue le jeudi à 19h30 et les samedis et dimanches à 18h30. Pour réserver, il faut téléphoner au théâtre La Folie Méricourt au 01 43 55 14 80. Je répète, 01 43 55 14 80 pour voir donc Sfumato, la Joconde dévoilée. Autre chose, mais c'est la dernière aujourd'hui, c'est Diary d'amour, d'après Natalia Ginzburg, et qui est mise en scène par Nanni Moretti. Nanni Moretti, qu'on a pu voir à l'Istituto Culturale il y a quelque temps, lire Goffredo Parisi. Et donc, il faut téléphoner au théâtre de l'Athénée pour réserver. C'est la dernière aujourd'hui, au 01 53 05 19 19. Et enfin, une dernière info avant de passer à nos invités. On a parlé la semaine dernière de La Voce, qui avait un numéro spécial Sicilia, justement. Eh bien, là, c'est le numéro de Focus qui est arrivé et qui, lui, traite de Napoli. Napoli, notamment, ils prennent le contraire de Anna Maria Cortese qui disait « Il mare non bagna Napoli » et eux disent « Napoli non bagna il mare ». Et donc, c'est différents articles, notamment de Eri De Luca et aussi un très bon article de David Cerullo. David Cerullo, qui est, on l'a connu, il a fait une exposition de photos qui habitait dans les Vélé à Scampia, ce qu'on voit dans le film Gomorra, tout ce centre de trafic de drogue. Voilà, donc ça c'est la belle revue de Patrizia Molteni et de Focus In. Et là, pour s'abonner, il faut téléphoner au 06 63 95 11 60. 06 63 95 11 60. C'était tout pour les annonces. On va passer à notre prochain film. On va aller un petit peu vers l'Orient avec cette chanson de Vincio Capossela qui s'appelle Maraja.
Arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maraja. Col monopolo e il ciclofono va in rivista il Maraja, salza l'asta del ginnasta quando passa il Maraja, si sollevano i manubri dei sollevatori bulgari, si spara l'uomo cannone quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maraja. Si sganascia, si oscureggia il Maraja, raglia tutta la marmaglia quando raglia il Maraja, sbaglia in porti commensali, versa gli otri di boccali, pascia al lato, si stravagga, si stramazza il Maraja. Ma zittiscono e squittiscono, si sternuta il Maraja, si stupiscono e svaniscono, se si acciglia il Maraja. I giannizzeri ottomani fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maraja. Circazza su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di taffà, alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna tutti i suoi topazzi diventare Maraja.
Maraja, Maraja.
Hasta plan femenino.
la finanza si rinvince il Maharaja. Tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maharaja. Fa da padre, da padrino, alza tutti il suo destino. Non bisogna più pensare, pensa tutti il Maharaja. Molto attacco con riguardo tutto il bacio del suo sguardo. Se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li hai presi, l'uomo nero e non li ha resi. L'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero. M'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo per pensare di vittore Maharaja. Blam feminin cutan, meling elistic stu, malingut.
Le Maharaja de Vinicio Capossela. Alors, maintenant, je reçois, donc, nous recevons Ossine Tanjawi. Merci d'être là. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour ce roman qui s'appelle Ainsi que tous les hommes, entre parenthèses, Naples, Tunis, Skopje. D'abord, déjà, pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi ce roman ?
Une présentation rapide. Je suis né en Algérie. Il y a bientôt 75 ans.
Ça arrive à des gens bien. Il s'auto-scritto.
Voilà, et je suis, je fais partie de cette génération qui a été éduquée par l'école française, etc. Et je me suis installé en France depuis 72, donc ça fait quelques années. Une définition rapide, c'est dire que je suis d'abord un écrivain, puisque c'est ma préoccupation principale. Je suis également poète. Et disons que pour donner quelques éclairages de ma biographie, j'ai commencé par une formation pour devenir instituteur, puis j'ai pas renseigné comme instituteur, j'ai devenu journaliste, et le journalisme m'a conduit vers le théâtre. Et le théâtre, voilà, pendant des années, et je suis rentré en France en tant que administrateur d'une troupe de théâtre. Voilà. Donc c'est pas une trajectoire très classique, mais c'est celle qui m'a amené d'abord à l'écriture, à la littérature, et qui m'a par ailleurs permis d'émigrer en France. Voilà, je pourrais en dire plus, mais à grands traits, c'est...
Ok, alors maintenant, pourquoi ce roman, spécialement ce roman, donc, qui raconte l'histoire de Bernard, donc je rappelle le titre « Ainsi que tous les hommes », et qui raconte l'histoire de Bernardo Finzi.
Alors, le sujet s'est imposé à moi, comme souvent en littérature. Il se trouve que j'étais à Tunis quand il y a eu l'attentat contre le musée du Bardo, dont je rappelle les faits, c'est deux jeunes terroristes de 20 et 21 ans, armés de Kalachnikov, qui ont pris d'assaut l'entrée du musée du Bardo, où il y avait des touristes qui arrivaient. Ils ont fait une vingtaine de morts, et puis ils ont mitraillé à l'intérieur du musée. Et cet événement m'a tellement choqué que je me suis dit, il faut pouvoir comprendre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de deux mômes pour qu'ils passent à l'acte de cette façon et qu'ils s'attaquent à cette institution qui est quand même le réceptacle d'un patrimoine national tunisien considérable. Voilà, c'était ça le déclencheur de l'envie d'écrire.
Mais ce musée du Bardo est aussi proche, il y a des bureaux du ministère de la Défense qui sont
alors,
proches.
Alors, tout à fait, ça c'est une des particularités de l'aménagement ou de l'organisation de l'espace à Tunis. Il se trouve que le musée du Bardo est dans un espace commun avec le ministère de la Défense et avec le Parlement. Donc, point stratégique, s'il en fut, dans l'organisation urbaine de Tunis, est donc extrêmement vulnérable. Et en fait, cette situation fait que on ne sait pas si on se trouve dans un espace public culturel ou dans un lieu institutionnel avec ses contraintes en matière de sécurité et de défense. Il y a cette ambiguïté-là sur le lieu lui-même, quoi. Et effectivement, quand on sait ça, une fois qu'on sait ça, on comprend que des terroristes veuillent attaquer symboliquement cet endroit-là, cette place particulière de la ville de Tunis.
Oui, on rappelle aussi que donc 2015, c'était le 18 mars 2015, Paris a aussi été frappé de plusieurs attentats, Charlie Hebdo, plus le Bataclan et le Stade de France, etc. Donc c'était une année difficile, en effet, dans le monde entier. Et donc ce musée qui contient des œuvres d'art particulières, notamment des mosaïques.
Le musée du Bardo, pour moi, c'est tout simplement la plus grande collection du monde, de la Méditerranée donc du monde, en matière de mosaïques, principalement de l'époque romaine. Autrement dit, de moins deux siècles avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire le 4e. Et cette concentration-là, elle est absolument exceptionnelle en œuvre, parce que cette période-là a représenté le sommet de la maîtrise de l'art de la mosaïque. Et donc, on trouve là des œuvres qu'on trouve également dans certaines, évidemment en Italie ou en Sicile ou, et en Turquie.
Oui, et surtout pour tout le Méditerranéen. Absolument. Pratiquement, où les Romains
sont passés. Mais il y a quand même des concentrations. Oui. Ces concentrations sont liées aux implantations romaines, là où il y a pu y avoir des colonies et surtout des grandes demeures, des grandes maisons. Vous avez au musée du Bardo des œuvres qui font 6 mètres sur 11,
presque 100 mètres carrés, triomphe de Neptune, notamment.
Absolument, c'est absolument. Des œuvres extrêmement originales, par ailleurs. Vous avez le portrait de Virgile, qui est le seul portrait de Virgile, qui est à Tunis. Hein. Donc il y a une richesse de ce musée qui est tout à fait exceptionnelle. Bon, là, je parle que de l'héritage romain, mais il y a également l'héritage phénicien, l'héritage arabo-musulman, etc. Mais symboliquement, pourquoi je parle en particulier de la mosaïque et de l'époque romaine, c'est parce que il y a eu dans ce geste de l'attentat cette agression en direction de ce patrimoine. Et rappelez-vous qu'il y a un autre exemple dans ces années-là, c'est celui de Palmyre et celui de la destruction des œuvres sumérienne dans le musée de Bagdad. Donc, une espèce de rage à l'encontre de ce patrimoine qui, pour moi, devait être interrogé et qui continue de devoir être interrogé. Voilà les raisons qui ont mené à cette écriture et à m'intéresser en particulier au rôle de ce musée du Bardo à Tunis.
Ok, merci. On va faire une petite pause musicale en écoutant la plus célèbre des actrices franco-tunisiennes que vous allez reconnaître sans doute.
Claudia Cardinale tourne en Sicile son 55e film. Elle apparaît pieds nus, sans maquillage, sur un plateau austère entouré d'une petite équipe. Un cadre inattendu pour une star aussi prestigieuse.
La gente di te forse conosce soltanto, soprattutto il tuo volto. Non sa bene come sei fatta dentro. Ecco, tu saresti in grado di definire te stessa in poche parole. Che cosa sei?
Ma io non amo definirmi. Perché è una delle poche cose che mi sono rimaste.
Preferisci restare così, indefinibile.
Un po' sfuggente. No, la gente che mi deve definire, che mi deve vedere. Io ho poche cose che mi sono rimaste per me. E quello che ho dentro di me è una cosa mia.
E sei gelosa di questa cosa?
Sì.
En 3 ans à peine, Claudia a déjà tourné 14 films avec les meilleurs réalisateurs et les plus grandes stars du cinéma italien. Mais elle parle encore comme une débutante.
Claudia Cardinale, vous arrivez à Cannes non seulement avec un film, mais avec deux. À vous seule, vous représentez presque tout le cinéma italien à Cannes.
Une double peur.
Une double peur.
Oui.
Est-ce qu'il vous arrive de suivre les conseils qu'on vous donne?
Oui. Oui, j'écoute, mais enfin, je fais un peu à ma tête.
Est-ce que vous suivriez, par exemple, le conseil que je vais vous donner?
Quel?
Surtout, restez toujours comme vous êtes.
Oh, merci.
D'abord, quel effet croyez-vous que produise votre apparition?
Sur qui?
Vous êtes actrice, donc sur les spectateurs.
Ils me voient comme une figure énorme, imposante, très grande, majestueuse, monumentale.
Ça vous plaît d'être perçue ainsi?
Oui, ça me plaît beaucoup.
Pourquoi?
Parce que ça me plaît d'être perçue telle que je ne suis pas dans ma vie.
Qu'êtes-vous dans la vie?
Dans la vie, je suis une fille ordinaire, comme toutes les autres.
C'est un beau témoignage et en effet, elle est comme ça. Elle est à la fois star et à la fois très simple. On l'a rencontrée, nous, plusieurs fois, interviewée, même dans son appartement... boulevard Henri IV, et voilà, elle est une grande star, mais restez simple.
Absolument.
Alors, continuons avec le Bardo et l'histoire de Bernardo Finzi.
Alors, alors il faut que je rentre dans les méthodes de construction d'un roman. Je suis parti de cet événement considérable, donc cette agression du patrimoine commun tunisien. Et j'ai commencé à écrire sur le rôle de jeunes qui attaquent une institution. Et il m'a fallu un fil conducteur dans cette histoire. Et j'ai imaginé la visite de quelqu'un d'extérieur à la Tunisie. Mais pas tout à fait extérieur, puisqu'il fallait qu'il puisse aussi décrypter, comme s'il avait des éléments dans sa vie qui lui permettaient de bien comprendre. Donc j'ai créé ce personnage qui est à la fois italien, né en Tunisie, et archéologue, et venant du musée de Naples. Donc, ce qui lui permettait d'avoir un regard à la fois sur sa propre histoire, à lui, son histoire familiale, et sur l'histoire de l'évolution de cette institution. Et je suis allé plus loin, puisque j'ai imaginé que son enfance s'est passée autour du musée du Bardo, et que, dans le fond, il a été pris de passion de l'archéologie en fréquentant enfant cette institution. Donc, ça a été le fil conducteur. Et pour aller plus loin, j'ai connecté ce personnage avec une histoire particulière de la Tunisie, qui est celle des Italo-Siciliens et Italo-Sardes, enfin tous les Italiens de Tunisie, et parmi eux en particulier ceux qui ont choisi l'indépendance de la Tunisie. Et il me paraissait important qu'il soit fait hommage à ce groupe, à cette partie de la communauté, qui est oubliée en réalité. Aujourd'hui, il en reste des traces, mais en réalité, dans la mémoire collective, on a souvent oublié que des Tunisiens, des patriotes, même des nationalistes tunisiens, sont en réalité d'origine italienne. Et ça me paraissait, de la même façon qu'il y en a qui étaient d'origine française. Ça me paraissait un élément important pour montrer la complexité de l'histoire.
Oui, surtout, notamment, parce que bon, les Siciliens sont venus vers la fin du 19e, mais arrivée la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, où là, la Tunisie était sous protectorat français. Bien et sûr. Donc, il fallait un petit peu choisir pour les Tunisiens qui étaient minoritaires par rapport.
Tout à fait. Et ce que cache, par exemple, le fait qu'on dise que la Tunisie a été un protectorat français, c'est que ça a été un protectorat français sur une base de population européenne qui était essentiellement italienne au début. Je ne sais pas si vous savez ça, mais quand les accords de protectorat ont été signés, il y avait déjà 120 000 Italiens en Tunisie. Et donc, non seulement avec une présence, de travailleurs, de populations émigrées dans le secteur de l'agriculture, du commerce, etc., mais aussi avec des réseaux d'hôpitaux privés, enfin d'hôpitaux caritatifs, de représentations aussi, de l'Église. Donc c'était une présence ancienne et organisée au moment même de l'arrivée du protectorat français. Et ça, les gens l'oublient ou ne le savent pas.
Bon, on va en parler un peu plus tard, justement, avec Massimo Ferrara. Donc, revenons au roman, parce que ce Bernardo vient à la recherche de son grand-père, qui était constructeur, notamment.
Tout à fait. Alors, pour établir ce lien entre Naples et Tunis, dont, soit dit en passant, peu de gens ont remarqué la similitude, hein, y compris géographique. C'est assez hallucinant. J'ai donc créé ce personnage, et pour donner une dimension personnelle et familiale à sa quête, à sa recherche, j'ai imaginé que une tante, Esther, c'est son nom, lui confie cette mission de retrouver ce grand-père disparu. C'est ce fil-là. Et donc Bernardo part à la recherche de ce grand-père et traverse à la fois l'histoire de la Tunisie et des Italiens de Tunisie, découvre d'une certaine façon l'importance de ces Italiens dans l'histoire de la Tunisie et l'importance aussi de la prise de position de son grand-père, qui a décidé, lui, de rester en Tunisie après l'indépendance. Et ça me semble un point important. Et dans cette découverte des Italiens de Tunisie, il y a l'histoire extraordinaire et ignorée de ces militants de gauche antifascistes d'abord avant la guerre et communistes pendant la guerre, qui ont été emprisonnés par le régime de Vichy, il faut jamais l'oublier, qui a été envoyé dans des camps, qui ont été envoyés aussi dans des prisons. Par exemple, Mauricio Valenzi a été emprisonné, ainsi qu'un groupe de militants communistes, et ils ont été envoyés dans la prison de Lambèze, en Algérie. Cette prison, elle est connue. Donc, si vous voulez, cette histoire-là, c'est une histoire très forte, parce que ce sont bien des antifascistes nés dans ces pays-là qui ont mené cette bagarre, qui ont payé parfois de leur vie, qui ont en tout cas été emprisonnés. Et ce qui me semblait important, c'est que ce personnage, donc Bernardo, découvre cette histoire et qu'il la raconte. Voilà. Et qu'il la raconte comme faisant partie de sa propre histoire. C'est ça qui fait le roman, si vous voulez.
Voilà, il faut lire le roman. On va refaire une petite pause musicale. On a cherché Bambino in Italiano, on l'a pas trouvé. Donc ce sera Guaglione, chanté par Emanuela Iannucelli.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Voilà, c'est l'heure du cappuccino. On continue avec Ossine Tanjaoui et son personnage de Bernardo en Tunisie, mais aussi ailleurs.
Voilà. Le roman se construit également sur l'idée que différents lieux peuvent être représentatifs d'un moment de l'histoire. Et je l'ai conçu comme une espèce de rapprochement entre Tunis, Naples, et un troisième lieu qui est Skopje. Et dans l'histoire de Bernardo, en tant qu'être humain, militant, observateur du monde, etc., il raconte, ou je lui fais raconter, l'histoire d'un groupe de Pakistanais qui... dans l'itinéraire d'une immigration, ont le malheur de traverser la Macédoine dans les années 2000 de tomber dans un guet-apens, de se faire tuer. Et la presse italienne, d'ailleurs, c'est la presse italienne qui a été la première, qui a découvert quelques jours après qu'en réalité, ce n'était pas du tout des terroristes, comme le disait le ministère de l'Intérieur macédonien, mais juste des migrants qui passaient. Et en fait, c'était malheureusement une espèce de complot, parce que la Macédoine voulait à l'époque... passé pour un bon élève de la lutte antiterroriste, et le ministre de l'Intérieur a déclaré que c'était une cellule d'Al-Qaïda. C'était un événement considérable. Et donc, du coup, je lui fais regarder de près l'histoire de cette partie du monde, qui est une histoire relativement violente. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est à quelques années de l'éclatement de la Yougoslavie, et les soubresauts de la Macédoine, c'est les soubresauts de toute cette partie du monde. Et dans le fond, une manière de regarder ce roman, c'est l'histoire de la violence.
Oui, c'est, de cette période d'attentats.
Absolument. Donc c'est l'histoire de la violence et de ce que ça signifie pour les peuples qui en sont victimes ou qui subissent ces histoires de violence. Donc voilà, Skopje est venu s'ajouter là avec cet exemple extrême et absurde de cette personne qui se font tuer comme ça pour pas grand-chose.
Ok, merci Ossine. Donc il faut acheter le livre et le découvrir. Donc je rappelle qu'il s'appelle Ainsi que tous les hommes, 108 éditions, édité à 108 éditions. Mais peut-être pour le commander, c'est plus simple d'envoyer un mail à votre nom. Donc je donne le mail, c'est ossinetand75@gmail.com. Ossine, c'est ossinetand75@gmail.com. Voilà, si vous n'avez pas bien eu le temps de noter, vous rappellerez pendant une prochaine chanson. On va passer là une chanson que vous aviez choisie, qui est Edith Piaf. Alors, Edith Piaf, qui était à la fois, qui avait une grand-mère italienne, née à Livorno, et un grand-père kabyle.
Kabyle.
Donc, on est toujours autour de la Méditerranée. On écoute Milord.
Soir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc, je rappelle le roman de Ossine Tandjaoui, Ainsi que tous les hommes, et puis également un petit recueil de poésie sur la musique. C'est une sorte de Madeleine Proustienne sur la musique, également aux 108 éditions. Et toujours le mail pour éventuellement commander ses œuvres et pouvoir les lire. On va passer à Massimo Ferrara.
Bonjour à tutti.
Bonjour. Vous avez réalisé un film sur justement les Siciliens de Tunisie.
La situation qui se chiama, s'appelle Macarrone, Siciliani di Tunisia. E questo primo documentario racconta attraverso la memoria dell'ultima generazione di come i siciliani sono arrivati in Tunisia.
Sì, dunque, all'Ottocento, nella metà dell'Ottocento.
Sì, quasi. La più anziana è 1850, quindi sì, la sesta generazione. La maggior parte però intorno a 1890.
Oui, parce que donc l'Italie, enfin au début, c'était une immigration de gens essentiellement de pauvreté, enfin pour travailler la terre que la Tunisie mettait à la disposition des Siciliens.
Per poter spiegare, puoi fare sì. Allora, per poter comprendere il fenomeno, bisogna parlare dell'arrivo dei francesi in Tunisia. I francesi, arrivando in Tunisia con gli accordi di Bardo, hanno occupato le terre di Allah, quindi hanno privatizzato delle terre che erano di uso di tutti i berberi che erano lì. E quindi avevamo bisogno di gente che andasse lì a coltivarla. E siccome diciamo lo stato più vicino era la Sicilia, ed era anche a buon prezzo, cominciarono a vendere lotti di terra e molti i siciliani andavano lì a comprare la terra con pochi soldi, che non avevano la stessa possibilità di averlo in Sicilia. Quindi i francesi, come dire, stimolarono l'emigrazione siciliana in Tunisia attraverso l'ufficio dell'emigrazione.
Quindi, sì, sì. Che
organizzavano i viaggi per far venire i siciliani in Tunisia. E in ogni modo dobbiamo, come dire, contestualizzare il periodo storico, che essendo il popolo italiano suddito, quindi non erano cittadini, non avevano diritti, non era possibile emigrare, nel senso che se tu cercavi di emigrare clandestinamente e venivi preso dalla gendarmeria, venivi arrestato. Quindi problemi per lui, per la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi questi viaggi venivano organizzati attraverso delle aziende private che deportavano, il termine non era immigrazione ma deportazione, i siciliani in Tunisia per coltivare le terre e per essere utili alla politica economica francese in Tunisia.
Okay. On va écouter un extrait de ce documentaire, justement, des témoignages de ces gens qui étaient souvent nés en Sicile et puis qui ont dû retrouver soit l'Italie, soit la France, puisqu'ils étaient aussi francophones. On écoute un premier extrait.
E arrivarono alla Goulette dopo anni di giri per questo paese, e dove abbiamo, diciamo così, concluso la nostra presenza, nostra esperienza familiare in questo paese, che per me, per come l'ho vissuto, per come ho vissuto l'infanzia, per come ho vissuto la mia gioventù, posso considerare la Tunisia il mio secondo paese. Il primo è l'Italia e il secondo paese è la Tunisia, perché la Tunisia è il paese dove è nata mamma, dove sono nati mio fratello e mia sorella, dove sono nato io e dove sono sepolti i miei nonni e le mie nonne.
Dalla parte di mio padre, suoi fratelli, sue sorelle, gente molto coraggiosa, una razza di un coraggio inflessibile, freddo, proprio un coraggio, non conoscevano la paura.
Perché stavano bene, si sono comprati una barca, tutti i familiari, una barca grande, si sono perfino portati il cane e sono andati all'avventura. c'era un ambiente siciliano, sono andato armato con i pistoli, si credeva chissà cosa, invece là era tutto tranquillo, perché stavano bene, si sono comprati una barca, tutti i familiari, una barca grande, si sono perfino portati il cane, sì, e sono andato all'avventura. C'era un ambiente siciliano, sono andato armato con i pistoli, si credeva chissà cosa, invece là era tutto tranquillo.
Alors, qu'est-il arrivé à Sicilia une fois sur place? Et suivant les vicissitudes de l'histoire, le temps qui passe, la Première Guerre mondiale, la Seconde, l'indépendance de la Tunisie.
Allora, dobbiamo iniziare tutto dall'8 agosto del 1942, quando la Tunisia viene liberata dagli alleati. Il generale De Gaulle emette un decreto di espulsione di tutti gli stranieri, ma in modo particolare dei siciliani. E voglio fare una distinzione tra siciliani e italiani, perché è la distinzione che ha utilizzato De Gaulle. Quindi tutti i siciliani che avevano le case, avevano le terre, che erano un pochettino ricchi, diciamo così, furono tutti espulsi. E molti furono arrestati e deportati nei campi di lavoro in Algeria e in Marocco. Siciliani e tunisini. Perché tunisini? Perché un buon numero di tunisini avevano aderito al fascismo.
Una
piccola parte aveva aderito al fascismo, ma anche però anche dei comunisti furono deportati nei campi di lavoro. In quell'occasione Togliatti scrisse una lettera a De Gaulle dicendo: ma come, arrestate pure i comunisti che sono antifascisti. E De Gaulle, il segretario di De Gaulle, gli scrisse: e Messie, c'est una guerre di nazionalité e non ideologique. E quindi parecchi questi qua furono espulsi dalla Tunisia, le proprietà furono messe come in vendita per risarcimenti di danni di guerra.
Oui, et lasciate senza nessuno per lavorare le terre.
Sì, vabbè, insomma, quella era poi, no, quella poi nel 64, ma la maggior parte erano tutti commercianti,
artigiani,
gente abbastanza ricca che aveva fatto dell'industria, e quindi era, insomma, gente che aveva soldi, che dava lavoro. Ed era in concorrenza con le ditte francesi, in ogni caso.
Sì.
Ad esempio, Aletta, che era insieme ai suoi fratelli, avevano parecchie terre, loro invece non furono espulsi, ma per 6 anni lavorarono per conto del governo francese, e loro venivano pagati come operai. Quindi loro continuavano a coltivare le loro terre, però tutto il guadagno andava al governo francese come risarcimento danni. Questo è un po'. E un'altra cosa abbastanza triste: tutte le scuole pubbliche italiane furono chiuse. Quindi non esistevano più scuole pubbliche. Per esempio, la più famosa era Margherita di Savoia, il liceo Margherita di Savoia, che poi fu sostituito con il liceo Carnot.
Ok, on va peut-être écouter un deuxième extrait dans ce cas.
Grand-père paternel était d'Alcamo et sa famille était partie en Argentine. Et ensuite, il voulait se marier avec une jeune fille qu'il avait rencontrée plus jeune. Donc il est revenu d'Argentine en Sicile pour se marier avec une personne de son village à Alcamo. Et ensuite, les parents de cette femme n'ont pas voulu qu'il retourne en Argentine parce que c'était trop loin. Et donc il est parti vivre en Tunisie, où là il a pu exercer sa profession. Voilà, donc ça c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est au contraire, c'est une famille qui venait de Termini Imerese, c'était des marins. Et là, ils ont décidé d'aller en Tunisie parce qu'ils gagnaient mieux leur vie, ils pouvaient vivre de façon économique mieux. Et donc, mon grand-père maternel, lui, est né en Tunisie. C'est la différence avec mon grand-père paternel.
Allora, ci rimane poco tempo, quindi il primo documentario, questo qua, vuole raccontare, anzi vuole, come dire, ribaltare la storia ufficiale, che praticamente parla di siciliani che erano mafiosi, banditi, ignoranti, come se essere ignoranti fosse
un delitto.
Un delitto, cioè le cose veramente assurde che non stanno nemmeno in cielo. E quindi abbiamo cercato insieme ad Antonio Farrugia di raccontare un'altra storia, che non è la storia ufficiale, perché tutto quello che ci è stato raccontato, quello che ci stanno raccontando, si chiama ucronia, stanno riscrivendo la storia dell'immigrazione siciliana in Tunisia, che parte dal 1834 e fu una immigrazione pacifica. Non fu una occupazione coloniale come ci vogliono far credere. Si erano lì perché c'era l'occasione di poter lavorare, ma perché la Tunisia era, come dire, era organizzata socialmente in modo diverso. Quindi i berberi non coltivavano la terra, facevano delle cose, come dire, abbastanza stagionali. E l'occupazione fu in modo pacifico. Basta ricordare la Goulette, Claudia e Cardinale, per intenderci, che fu il bey della Tunisia, lo diede per 90 anni a una famiglia siciliana, e lì nacque la prima industria di conservazione ittica. Cioè i siciliani arrivavano lì e bonificarono la terra perché era paludosa, e lì praticamente nacque il gulottese, che è un miscuglio tra berbero siciliano ed ebreo e arabo, ebreo magrebino, diciamo così.
Una lingua mista. Allora, le temps malheureusement nous est compté. Alors, ce film, les macaroni di Sicilia, où est-ce qu'on peut le voir?
Allora, si può trovare su YouTube, scrivendo macaroni.
Sì, due C, due R.
Sì, siciliani di Tunisia, sì. Ed è sottotitolato in francese.
Ok. Ah ben, donc, Macaroni di Sicilia et sur YouTube. On va terminer avec une chanson que vous avez choisie, Assicutano o Vento, ce qui veut dire écoute le vent peut-être.
Écoute, non, seguir le vent.
Ah, seguir.
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 Cappuccino termina qui. A tutti voi buona domenica, buona settimana e appuntamento a domenica prossima.
Dimmi un po', Raffaele, il palatino va o ritorna qua?
Il palatino è...
non c'è più.
No, ma questo che parte da lui.
Se termine, no. Se domani, che prima andrà in diretta, parirò.
Lo so, malauguratamente. Neanche a Venezia non fanno più.
Neanche a Venezia, no.
Niente da fare. Bene, buona giornata.
Buona
domenica a tutti e a tutti.
E a domenica prossima, stessa frequenza, stessa ora.
Bene.
Stesso binario 4.
Vi aspettiamo per l'ascolto, sul binario 4.
Sarà con Francesco Magon e Marta.
Sì.